Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Keïta est un jeune Malien de 30 ans. Son histoire est d'une banalité qui n'ôte rien à son injustice. Lorsqu'il arrive en France, raconte Nicolas Jounin dans son livre « Chantier interdit au public », Keïta reste 4 mois sans papier ni travail. Lorsqu'un ami lui prête enfin des papiers, il se rend tout naturellement dans une agence d'intérim spécialisée dans le bâtiment, du côté de la gare du Nord. Ici, les entreprises du BTP embauchent ou débauchent à tour de bras des intérimaires et des sous-traitants peu ou pas qualifiés, qui peuvent donc être renvoyés du jour au lendemain. Comme les autres, Keïta signe vite des contrats d'une journée au début, puis deux, puis cinq jours. Au bout de quelques mois, à ce rythme, il change d'agence et obtient, oh joie, un contrat de 2 mois, puis un autre de 2 mois et encore un pareil, mais jamais davantage. Au bout de plusieurs années, la responsable de l'agence d'intérim, une certaine Dominique, finit par l'admettre parmi ses ouvriers privilégiés, des sortes de VIP de l'intérim, et lui donne du travail régulièrement, ce qui lui assure une certaine stabilité. Mais avec le temps, Keïta n'a aucune augmentation, aucune formation qualifiante, ni aucun avancement ou reconnaissance des compétences qu'il a acquises, aucun droit en somme, même s'il a entre-temps obtenu des papiers en règle. S'il reçoit un jour des gravats dans les yeux, comme cela lui arrive, il obtient avec grande peine une semaine de congé maladie. Mais il a la chance, dit-il, de ne pas subir le même sort que son collègue Sissoko, qui fait des cadences infernales au marteau-piqueur et se fait virer à la première protestation. Pendant ce temps, chaque mois, Keïta envoie l'essentiel de ce qu'il gagne au Mali pour soutenir sa famille, payer des études et des soins. Il n'a à peu près aucun espoir de voir sa situation changer, sauf peut-être en pire. Tout de suite, dans Les Pieds sur Terre, deux autres histoires d'intérimaires, un lanceur d'alerte et un idéaliste par Judith Chetrit.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
J'ai fait de l'intérim depuis 7 ans. Par choix de liberté, et voilà, être indépendant, pas avoir un patron sur le dos, être libre et gagner plus. Le patron, s'il nous embête, on peut aller avoir ailleurs. On n'a pas de compte à lui rendre. Le compte à lui rendre, c'est on arrive le matin, on fait notre boulot, et voilà. Et on doit être mieux que les autres chauffeurs embauchés. C'est ça l'intérimaire. Moi, j'étais polyvalent. Je pouvais tout rouler, tout type de véhicule. Mais faire de la matière dangereuse, j'en ai jamais fait. Et j'étais pas habilité à faire de la matière dangereuse. Et j'en ai fait en intérim pour la Suez, pour le groupe Arcelor, du jour au lendemain, voilà. Décembre 2016, je suis présenté à la boîte d'intérim pour m'inscrire. Quelques jours après, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit si ça m'intéressait de faire travailler pour la Suez en environnement, qui était à Rosslange. J'ai dit ok. Et après, on m'a envoyé à ArcelorMittal, à Florange. On m'a donné un tracteur routier. On m'a dit, tu vas au dépôt central à Rosslange pour récupérer une citerne. Tu la récupères et tu l'envoies au crassier. Tu téléphones à ton chef qui est en congé pour qu'il t'explique comment décharger la citerne. Le crassier, ça appartient à ArcelorMittal. C'est une montagne de déchets. Je sais qu'en camion, il faut au moins une demi-heure pour faire tout le tour. C'est un site Céveso, comme ils appellent ça. Il faut un badge pour entrer. Il faut passer par le portail de sécurité. Voilà. Vider du produit avec un panneau orange de matière dangereuse en pleine nature. Ça m'a déjà choqué dès le premier jour. Deuxième jour, je vais au boulot quand même. On me dit, ah, tu vas là au service décapage. Le décapage, c'est quoi? C'est là où on lave les bobines pour les clients. Parce que les bobines, quand ils sortent de la série, ils sont un peu rouillés et tout ça. C'est là où on les décape avec de l'acide. Et moi, je récupérais les acides usagés. Et là, on me dit, ah, Flérim, fais attention à tes yeux, c'est de l'acide, mets des lunettes. Fais attention à tes mains, ça bouffe les mains. Et quand on en met un peu sur la tenue de travail, ben, ça faisait un trou. Et quand ça se mélangeait avec de l'eau, ça faisait une vapeur. Ben, je la respirais chaque fois. Hein. Parfois, le soir, je rentrais, je saignais du nez. Ou j'avais mal aux yeux. Ou j'avais, le matin, je me levais, j'avais les yeux qui collaient. Voilà. Une à deux fois par jour, j'allais au crassier pour vider. Et le troisième tour, je le ramenais chez Veolia parce qu'il était moins acide. Moins fort en acide. Mais il fallait pas dire à Veolia que j'allais au crassier. Parce que quand mon chef de service m'accompagnait en permanence quand j'allais au crassier. Quand je vidais, il était jamais à côté de moi, il était un peu plus loin. Mais il regardait ce que je faisais. On va pas dire que c'est surveillé en haut, au crassier. Il n'y a pas de caméra, il y a de temps en temps un vigile qui passe. Je pouvais aller n'importe où, quoi. Mais bon, j'avais un lieu pour vider. Il fallait se cacher. Il fallait pas voir... Karim, si tu vois un hélico ou un avion blanc, tu débranches tout, tu continues à rouler. Ou Karim, quand tu vois une Clio blanche, tu te barres. Voilà. La Clio blanche, c'est qui? C'est la DRIAL. La DRIAL, c'est la police de l'environnement, ou sinon c'est la direction régionale de l'environnement et du logement. Et quand je suis arrivé, j'ai dit, faut pas que j'ouvre ma gueule, sinon je vais perdre mon boulot. Et pourquoi je suis resté? C'est parce qu'on arrive à période de Noël, j'ai eu une petite période de chômage, parce qu'à un moment, le TP et tout, ça s'était arrêté, travaux publics. Et c'est pour ça que j'avais gardé le boulot là. Je les ai mis 7h30, je rentrais à la maison. Bon, c'était des contrats d'une semaine, mais renouvelés chaque fois. C'était un jour où je suis retrouvé tout seul parce que mon chef de service avait une réunion syndicale. Et il m'a dit, ah bah tu montes tout seul. Moi je suis arrivé là-haut. Mais j'ai pas vidé tout de suite. Je regardais mes papiers. Et c'était écrit boue d'hydroxyde de fer. Et dans ma tête, je dis, ah bah c'est pas de la boue d'hydroxyde, c'est impossible. J'avais regardé sur internet comment c'était de la boue d'hydroxyde de fer. Et c'était de la boue. Une boue pâteuse, couleur orange. Voilà. Je commence à vider. J'arrête la pompe. Je fume une cigarette. Et je prends mon portable. Et je commence à lancer la vidéo. Et j'en ai fait 4 des vidéos.
Et voilà comment on recycle les déchets à Florent, chez Arcelor. On balance de l'acide. Pas la belle nature, pour nos gosses.
La vidéo que j'ai faite, je suis en haut du crassier. On voit un petit air plein, les tuyaux qui passent par-dessus.
Voilà, c'est de l'acide. Et voilà.
L'acide qui sort, le verre fluo qui fume dès que ça touche le sol, ou ça fait péter le sol parfois.
Pas loin des bois, pas loin des habitations.
On entendait le sol craquer parce que ça sent calcaire en haut. Et acide à calcaire, ça, on l'entend.
Belle couleur, hein. Des beaux produits chimiques, c'est Dame Nature. Voilà.
Une semaine s'est passée. Un soir à la maison, bon, j'étais tout seul à la maison. Je dis, je l'aimais ou pas les vidéos. Je l'ai mis quand même sur mon mur, Facebook. Pas mis de légende au-dessus, j'ai juste posté sur mon mur. Et le lendemain matin, je me lève pour 7h. Ouais, je vois des notifications à Google. Plein de messages de copains. Ils me disent, ah bah t'étais où? En Tunisie. J'entends Florent, je comprends pas. Je dis, non, ça se passe à Florent. Ah bah enlève-le, tu vas avoir des gros problèmes, enlève ces vidéos. Et après, j'ai une copine qui bosse au Républicain Orange. Elle m'a demandé si elle pouvait récupérer les vidéos. Alors moi, je les ai envoyées par message, les 4 vidéos. Après, je les ai enlevées. Je continue à travailler et un soir j'étais à Romba, je suis allé voir ma mère. Je passe à côté des pompiers. Je vais présenter cette vidéo à un sapeur-pompier, qu'est-ce qu'il va me conseiller? Le gars est bouche bée, bloqué le mec. À la fin des vidéos, il me dit, bah, tu es pompier chez ArcelorMittal. Et je lui dis, non, moi je veux pas que tu préviennes Arcelor. Je veux que tu préviennes la SDI, les pompiers de chez pompiers, comme la police de la police. Mais non, il l'a pas fait. Il a prévenu ArcelorMittal le 2 janvier. Par rapport écrit à sa hiérarchie au Luxembourg, au siège, pour dire qu'il a vu les vidéos de déversement d'acide, mais il n'a pas donné mon nom. Mais Arcelor, ils ont tout de suite trouvé, c'était qui? C'était moi. Bah, j'ai bossé jusqu'au mi-janvier, après ça s'est arrêté. Début février, ils m'ont appelé pour travailler chez Ascometal, pour faire du nettoyage industriel. Toujours en intérim, mais en nettoyage industriel. J'ai accepté, et là, on me posait des questions. Karim, t'as quoi comme portable? Karim, t'as déjà fait des vidéos au boulot? T'es écolo? Non, moi je suis pas écolo, je suis un vrai écolo, regarde, avec un gros diesel, l'écologie, c'est pas mon truc. T'inquiète pas, tu risques rien, dis-nous ce que t'as fait. Et après, bon, le 17 février, mon contrat s'est arrêté. Et après, je retrouvais plus de boulot, du jour au lendemain. C'était le 28 juin, c'était la fin de l'année scolaire. Je vais chercher le pain, je vois, t'en aurais plus qu'un aura, une grande page. Pollution chez ArcelorMittal à l'acide. Voilà. Je vois la photo, je dis, ah, ça, c'est ma vidéo. Ça y est, je suis bien dans la merde. Et là, France 2, TF1, voilà, tout s'est enchaîné en quelques jours. Moi, j'ai pas dormi pendant des jours. Hein. C'est une boule de papier qui continue à grossir, et voilà. Après l'article de presse, j'ai eu une ouverture de l'enquête du parquet. Et après, ils m'ont auditionné. Deux fois. Ils ont dessiné les collègues, ils ont dessiné les gens d'Arcelor. J'étais toujours sans emploi. Et au mois de septembre, j'ai pété un câble et je suis retrouvé hospitalisé à l'hôpital militaire de Metz. Je suis resté 2 mois et demi là-haut. Lors de mes bilans, ils ont vu que j'avais les yeux rouges, bien ronflés. Ils disaient que j'avais des ulcères. Et le nez, j'avais les muqueuses abîmées. Une fois devant l'ORL, m'avait fait des petits échantillons pour sortir, pour contrôler l'odorat. C'est très puissant, hein, c'est des produits très puissants. Même lui, il n'a pas pu supporter, je suis arrivé jusqu'à l'échelle 12, et ça ne me gênait pas. Et voilà, c'est les séquelles, je les ai attrapées de chez eux, chez Arcelor, mais j'avais d'autres soucis à penser que ma santé. C'était retrouver un boulot, c'était... Voilà, j'avais d'autres soucis. Parce que je voyais ma famille qui commençait à partir. En novembre, je sors de l'hôpital, je vais au Salon du Livre à Paris, du Livre et de l'Alerte. Je rencontre des lanceurs d'alerte. Ils m'ont dit, contacte cet avocat-là, il pourra bien t'aider. J'ai mis un peu de temps pour le contacter, mais je l'ai contacté. Il porte plainte pour mise en danger d'autrui. Et après, ben voilà, tout est lancé. La justice a fait son enquête, a eu des analyses. J'étais pas présent lors des analyses des sols. La justice a donné les résultats au mois de septembre et les ramène au tribunal ArcelorMittal pour gestion irrégulière de déchets. Parce qu'ils n'avaient pas l'autorisation préfectorale de déverser ces produits-là au crassier. Mais pas pour pollution à l'environnement. Cela, je l'ai dit, c'était pas de l'acide, c'était des eaux usées avec un léger taux d'acide dans le produit. Mais bon, c'était plus par facilité de le déverser là-haut, hein, à 1500 euros mètre cube d'acide de traitement. Vous comptez 14 mètres cubes, 1500 euros, je vous le laisse calculer. Ça fait un beau chiffre. Il y a eu une enquête de la Val-de-France chez la communauté de communes, de Florange et tout ça. Et Arcelor, ils disent qu'il n'y a pas eu de pollution sur les cours d'eau ou les nappes phréatiques. Mais bon, c'est ma parole par rapport à tous ces élus, c'est la justice et ArcelorMittal. Mais bon, la communauté de communes a besoin d'ArcelorMittal pour vivre. Et récemment, il y a un élu qui a marqué « Si la coquerie et le crassier pouvaient le reconstruire ailleurs, je l'aurais construit ailleurs. » Mais là, on peut pas. Automne 2018, ben, morose. Hein. J'ai 2 frères, un grand et un petit, qui travaillent pour un sous-traitant chez ArcelorMittal à Florange. Eux aussi, ils sont fait éjecter parce qu'ils portent le même nom que moi. Voilà. Et moi, quand je suis présenté devant le site Arcelor le 8 janvier, j'avais discuté avec l'agent de sécurité cordialement. Je ne l'ai pas insulté, je lui ai serré la main, je lui ai expliqué ma situation, je lui ai expliqué la situation de mes frangins, pourquoi ils s'en fait virer à cause de moi. Après, je suis emporté, je lui ai dit, si ton chef ne bouge pas, je vais lui faire sauter sa coquerie. Ou sinon, je te ramènerai les gilets jaunes et je te bloquerai les usines. Lui, il est parti déposer plainte à 15h, il lui menace sur site industriel. Et à 18h30, 2 agents de la BAC sont venus me chercher pour une audition. Ah, bonjour, monsieur Ben Ali Karim. Je fais oui. Bah, on vient vous chercher pour une audition. Arrivé au commissariat de Chorville, de 19h30, 18h30, jusque le lendemain, personne ne m'a parlé. Et après, je suis monté au bureau. Ils m'ont dit, on va chez vous, on va faire une perquisition. Je fais perquisition de quoi? Vous cherchez quoi? Une idée d'explosif. Je fais la sageuse d'explosif, c'est 3 enfants et une femme. ArcelorMittal a porté plainte contre moi. Le 8 février pour menace sur site industriel. Le 20 février, je suis passé devant le juge. Au départ, c'était 4 mois et demi et soins psychologiques et interdit de site. Je risquais ça, traîner autour de site Arcelor. Et finalement, j'ai été acquitté. J'ai du mal à me lancer dans l'avenir. Je vais faire un truc de Pôle emploi pour avoir confiance en soi au travail. Ça dure 2 mois, c'est tous les jours, c'est comme les heures d'école, mais voilà, c'est pour avoir confiance au travail. Ma plainte de mise en danger est toujours en cours, et aujourd'hui, il n'y a plus de camion qui va déverser de produits sur le crassier de Florange. Bah, tant mieux, pour moi j'ai fait une bonne chose d'à côté. Voilà, bah, qui sait, peut-être la nature va reprendre ses droits, mais il faut attendre entre 200 et 100 ans. Moi cette étiquette, je la déteste. Croyez quoi, c'est cool d'être un lanceur. Il y en a qui aimeraient bien être un lanceur d'alerte. C'est un gars qui galère tous les jours. Voilà. Il y a le RSA et il a le lanceur d'alerte. Il galère et plus la justice dans le dos. Voilà, c'est ça un lanceur d'alerte. Et moi, je me lève le matin, je regrette. Je regrette le matin quand je me lève. Hein. Vous croyez quoi?
France Culture, les pieds sur terre.
En septembre dernier, j'ai commandé chez Amazon deux colis qui n'étaient pas destinés à mon nom ou cassés. Donc j'ai voulu contacter Amazon pour leur signaler mon mécontentement. Je leur ai même dit que moi qui en recherche d'emploi depuis pas mal de mois, j'aimerais bien, si je travaillais chez vous, régler ce genre de soucis parce que je trouve que c'est pas quelque chose qu'un client devrait avoir. Et ils m'ont pris au mot, ils m'ont dit qu'il y avait un site de recrutement. Je suis allé sur ce site-là, j'ai postulé. J'ai été contacté dès le lendemain par l'agence d'intérim partenaire qui m'a convoqué la semaine d'après pour faire quelques tests. Donc voilà, pour anticiper un peu Noël, Black Friday, Amazon avait pour but d'embaucher presque 4000 personnes en intérim pour justement faire face à la demande des clients. Alors j'arrive à l'agence d'intérim de Douai. Donc une fois que l'entretien s'est terminé, j'ai reçu un SMS en me disant que j'étais pris pour le lundi suivant avec donc un contrat qui commençait de 1 mois, payé 10,22€ de l'heure. Et alors le premier jour, c'est très simple, c'est sécurité. Leur mot d'ordre, c'est safety. On visite Apple site, on a des petits panneaux avec beaucoup d'informations sur la sécurité, sur les conditions de travail. Donc là, on m'a dit, Adrien, tu es préparateur. On vérifiait que les produits étaient intacts, on les mettait par lot s'il fallait, et ensuite on les envoyait soit derrière dans ce qu'on appelle la pick tower, donc on va dire le grand stockage, ou alors directement s'il y a un client qui l'a commandé dans les minutes avant qu'on réceptionnait, directement dans une caisse pour l'expédition immédiate. Donc là, au niveau de cette mission, il fallait tout simplement pouvoir travailler en équipe. On est sur des équipes allant de 20 à 50 personnes selon les endroits. Et on est managé par un N+1, donc un lead, et après on a un manager qui est au-dessus. Donc on travaille sur une jambe de chaîne. Donc c'est une petite machine qui nous ramène des cartons. Moi qui avais un peu horreur de l'industrie, j'ai vraiment adoré le fait de découvrir ce qu'il y avait dans un carton, de voir le produit, de le découvrir peut-être pour la première fois. Et je sais que derrière, il y a des gens qui vont être contents de le recevoir au final. J'y croyais beaucoup. On nous avait dit qu'il y avait beaucoup de CDI possibles à la fin du quatrième trimestre. Et j'étais pas le seul à y croire. On allait jusqu'au bout et on jouait le jeu, la carte à fond, en équipe. Au bout d'un mois, une fois qu'on a été renouvelé, notre chef vient nous voir quotidiennement, voire 2 fois par jour, pour nous donner nos statistiques de travail, donc qui mesurent la capacité de produits traités à l'heure. Jusqu'à un mois et demi de travail, on n'était pas à fond dans les stats, c'était juste à titre indicatif, et c'est seulement au bout d'un mois et demi où là on nous dit t'es pas dans l'objectif ou t'es dans l'objectif. Donc généralement, si on est dans l'objectif, c'est une petite tape dans la main, c'est génial, bravo, continue comme ça, t'es un bon. J'ai par exemple eu « Félicitations Adrien, t'es le deuxième meilleur prépeur de la semaine avec 196% de production ». Sachant ça, je voyais les jours défiler, je voyais mes pourcentages augmenter de jour en jour, donc je voyais le mois de décembre arriver. J'avais postulé auparavant, avant de travailler chez Amazon, dans 2 secteurs différents pour m'ouvrir le maximum de portes, qui était technicien fibre pour avoir une formation, et une deuxième qui était surveillant pénitentiaire. J'ai reçu ma convocation par courrier, j'ai été voir mon chef, je lui ai expliqué la situation, j'ai été franc avec lui, je lui ai dit « j'adore le travail ». Il y a une bonne ambiance, je fais beaucoup de remontées en ce qu'on appelle des safety safe, c'est des petits papiers qu'on remplit pour améliorer un peu la qualité de travail. Ça m'embêterait de commencer une formation ou un concours alors que j'ai peut-être découvert une passion qui fait que dans 10 ans, je me vois encore là. Mais j'aimerais bien qu'on m'aide à aller avancer un peu plus au niveau d'Amazon, savoir ce qu'on attend de moi ou est-ce que je dois aller voir ailleurs au final. Et il m'a dit, écoute Adrien, j'ai regardé tes stats, fin novembre, 2 mois que je suis là, c'est bien, continue, pas d'absence, pas d'erreur. Et moi j'envisage sérieusement pour toi un CDI. Donc je me suis même mis à arrêter de travailler pendant 20 minutes, j'ai eu du mal à m'en remettre. Pour moi c'est comme une promesse. Je me suis dit, je fais confiance à mon manager. Je le laisse faire mon dossier comme il aurait l'habitude de faire. Et derrière, j'attends 15 jours, 3 semaines, 1 mois et toujours pas de retour. Donc du coup, je vais voir mon manager, je lui dis, ben, il en est où pour mon CDI? Il me dit, ça approche, donc au début, il fallait 60 jours de travail ouvré, et après, il pouvait lancer le dossier. Ok, donc je calcule, etc. Donc il me dit, ça revient vers le 12-15 décembre. Je lui fais reconfirmer, c'est sûr, j'annule mon concours pour être surveillant pénitentiaire. Il me dit, non, c'est sûr, reste, on va trouver ce qu'il faut. C'est ses paroles. Et puis, la semaine qui suivait, mon fils est tombé malade. Et il a fait une bronchiolite sévère. Il est resté quelques temps à l'hôpital. C'est même l'agence d'intérim en plein travail qui est venue me voir, qui me l'a dit. Mais je sais pas ce qui m'a pris. Le lendemain, j'ai quand même voulu aller rassurer les collègues. Il faut que je fasse comprendre aussi à Amazon que professionnellement parlant, je peux être là aussi pour eux. C'est vraiment le jeudi, dans la journée, son état s'est un peu dégradé. Donc là, je me suis dit, je peux plus, faut que je rentre. Et quand je suis rentré chez moi le soir, j'étais voir mon médecin, il m'a dit, vous pouvez plus rester comme ça, il faut que vous vous reposiez. Et là, il m'a mis 4 jours d'arrêt. J'informe mon chef, donc je lui envoie un message, je lui dis, écoute, je suis désolé, je sais bien qu'on devait travailler vendredi, samedi, mais je peux pas être là. Ok, repose-toi. Reste à côté de ton fils, je prie pour lui, etc. Un deuxième SMS me disant, surtout garde bien tes papiers pour ton CDI. Le lundi qui suivait, j'ai décidé de reprendre le travail. Ils savaient que moralement j'étais un peu ailleurs. Donc ils m'ont dit, t'inquiète pas, tout va bien se passer, fais ce que tu peux. Et tout se passait assez bien, je revois le manager arriver, je lui repose la question. Il me dit, écoute, on en reparle la semaine prochaine, je vais un peu regarder ce qu'il en est et tout, mais ça devrait être bon. La semaine se passe plutôt bien, parce qu'au final, j'ai su que j'ai fait 196% de production, voire un peu plus. Et donc là, je lui repose la question. Justement, fallait que je te voie, on a un autre critère, et t'es pas dedans. Donc il prend un papier, un crayon, et là, il me dessine ça, c'est la courbe minimum demandée. Donc pour être à 100%. Ensuite, ça, c'est la courbe de ce que toi, tu es. Là, c'est les intérimaires en demande. Là, c'est ce que tu es. Et là, c'est une courbe. C'est celle pour décrocher le CDI. Une courbe qui rejoint un peu tout, en fait. La progression, la performance, la volonté, je pense, aussi, elle doit être dedans. Et aussi, les absences. Je fais, mais sont justifiées, mes absences. Il n'y a pas de souci. Oui, mais ça fait quand même 4 jours. Ça aurait été 2, ça aurait été possible. Mais là, ça fait 4 jours. J'insiste sur le fait qu'ils sont justifiés. Je leur ai même clairement dit, refaites pas un gros contrat en CDD, je reprouverai que j'aurai pas d'absence au final. Je vais voir ce que je peux faire. Voilà, maintenant c'est la phrase que je reçois tout le temps. Je vais voir ce que je peux faire. Donc je suis dans l'incertitude donc de mon avenir. L'ambiance en plus est légèrement dégradée au niveau donc de l'équipe. C'était une rivalité en fait, le CDI, parfois. On arrive à la semaine du 20 décembre, je voyais des amis partir le soir travailler, bon bah demain, hein. Et le lendemain matin, ils sont pas là, bah pourquoi? Parce qu'à 6h40, ils sont devant la grille, et leur badge est dévalidé parce que ils ont pas été au courant qu'ils étaient mis en fin de contrat. Et mon contrat, là, il est à 10 jours de la fin, une semaine, ça descend. Est-ce que demain, si je pointe mon badge, ça va m'ouvrir les barrières? Je sais plus où me mettre, j'ai du mal, le matin j'ai la boule au ventre quand je vais travailler. Là je vais voir le médecin, qui clairement voit que je suis en dépression. Il me prescrit une semaine minimum d'arrêt maladie pour dépression. Je l'envoie dans l'après-midi à mon agence d'intérim. Je leur explique même également par mail la situation, que je ne comprends pas. J'étais franc avec eux, si c'est pour me mentir. Si c'est pour me dire que ça va pas aller et qu'il n'y a pas de changement, je vais mal le vivre. Clairement, je leur envoie un message d'alerte. Je envoie un message aussi à mon manager. Et là, plus de contact, plus rien. De plus personne. C'est le silence le plus total. Donc, je reçois le lendemain de mon arrêt maladie un mail de l'agence d'intérim. Bonjour, vous avez travaillé chez Amazon, nous vous en remercions, merci de répondre à ce questionnaire. Ok, vous ne voulez pas parler, je vais essayer de vous faire parler. Je vais trouver une solution pour vous faire parler. J'ai contacté un délégué du personnel qui n'était pas surpris par mon problème. Je lui ai dit mon intention que j'irai jusqu'au bout pour faire entendre ma voix. Ce qui m'arrive à moi, je ne veux pas que ça arrive à quelqu'un d'autre. Je leur ai clairement demandé que je voulais un retour informatique de toutes mes productions depuis que je travaille chez eux, de mes erreurs, de mes productions, etc. On m'a clairement dit que je l'aurais pas. Qu'ils ont déjà essayé pour d'autres personnes qui ont été un peu dans la même situation que moi. Ils n'ont jamais eu de retour sur les statistiques. Le retour de l'équipe où je travaillais, c'était « ça y est, monsieur, il y a deux gosses, il veut les nourrir et il va attaquer Amazon pour gagner du pognon. » J'ai contacté l'Avenir de l'Artois, j'ai été contacté par La Voix du Nord. Une fois que les articles ont été publiés, quelques semaines plus tard, j'ai eu mon agence d'intérim qui m'a enfin appelé, a essayé de me rassurer, mais qu'effectivement, que chez moi et Amazon, c'était terminé. Mais qu'elle me promettait également de ne pas mettre une croix sur mon nom dans leur dossier le jour où j'aurai peut-être quelque chose à trouver comme travail. J'ai quand même postulé à 2 ou 3 offres et je n'ai jamais eu de réponse. J'ai pas cumulé assez pour avoir du chômage. Et je me suis dit, pour pas avoir le même souci plus tard, on sait jamais, pourquoi pas être son propre patron. Donc là, je suis en projet de création d'entreprise. C'est tout à fait un peu normal quand on est intérimaire, qu'on nous met une carotte disant « il y a l'embauche, il y a l'embauche ». Mais il y a une façon de dire « il y a l'embauche à la clé » et il y a une façon de dire « je veux t'embaucher ». Ce sont bien mes deux supérieurs qui m'ont fait miroiter l'objectif du CDI. Et uniquement eux, parce que je n'ai jamais eu de retour des ressources humaines par rapport à ça. Donc sur le site où je travaille, mi-janvier, j'ai appris qu'il y avait eu, sur les 4000 intérimaires qui ont été pris au dernier trimestre, qu'il y a eu 500 CDI. Donc j'ai contacté quelques personnes qui ont eu la chance de décrocher le Graal, et je leur ai demandé un peu plus de détails sur comment ils ont réussi à l'avoir au final. Une fois que je rentre dans les détails, malheureusement, on me répond plus. Je te dis rien, je suis en CDI.
C'était Intérimaire en colère, un reportage de Judith Chétrit réalisé par Clémence Gross. Merci à Karim et à Adrien. C'est Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre. Et c'est Nino Lima, notre stagiaire.
Taking my time.